série de balados « Parlons des cancers du sang » présentée par la Société de leucémie et lymphome du Canada à l'intention des personnes touchées par un cancer du sang. Ce balado vise à vous offrir des ressources, vous soutenir et vous informer. Quand il s'agit de cancer, il est difficile de naviguer dans l'inconnu et il n'y a pas de réponse facile. Nous sommes ici pour vous donner l'information qui vous aidera à comprendre toutes les étapes de l'expérience du cancer du sang. Je m'appelle Pascale Rousseau et je suis la chef des services à la communauté pour la région du Québec et d'Ottawa. Aujourd'hui, nous parlerons avec le Dr Pierre Villeneuve, hématologue à l'Hôpital général d'Ottawa. Merci, Dr Villeneuve, d'être avec nous aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup pour l'invitation.
Alors, première question, qu'est-ce que la myélofibrose en quelques mots?
Donc, la myélofibrose, c'est une forme de cancer rare qui implique la moelle osseuse. Et ça fait partie des groupes de cancers regroupés sous le nom des néoplases myéloprolifératifs ou NMP. C'est une maladie qui est caractérisée par une production aberrante ou anormale des cellules sanguines. Et en conséquence, les gens ne peuvent pas produire des cellules sanguines normales telles que les hémoglobines et les plaquettes. Donc, les gens souffrent d'anémie et sont à risque de saignement. Et en plus de ça, leurs cellules immunitaires sont affectées. Donc, les patients sont plus susceptibles d'avoir des infections et vont avoir souvent aussi une rate qui peut être assez grosse, ainsi que des problèmes constitutionnels tels que perte de poids ou sueur nocturne.
Quel est le processus pour diagnostiquer la myélofibrose?
Étant donné que c'est une maladie qui prend naissance de la moelle osseuse, pour effectuer un diagnostic, nous devons prélever un échantillon de la moelle osseuse. On appelle ça une biopsie de la moelle osseuse. Et cet échantillon-là va être analysé au microscope dans un premier lieu. Donc, les patients qui ont la myélofibrose vont avoir une augmentation des cellules sanguines. C'est un petit peu paradoxal. Mais ces cellules-là vont en plus haut nombre, mais aussi il va y avoir beaucoup de fibrose. Donc ça serait une forme de cicatrisation de la moelle osseuse. Et l'autre élément qu'on voit beaucoup au niveau de la moelle osseuse chez ces patients-là, ce sont des blasts qui sont des formes de cellules cancéreuses. En plus de l'examen de la moelle osseuse au microscope, nous procédons à des tests génétiques. Donc ces tests-là ont un rôle non seulement au niveau diagnostique, mais aussi au niveau prognostique.
Et qu'est-ce que vous pensez qu'une personne qui serait récemment diagnostiquée avec la myélofibrose devrait savoir?
Je pense qu'une des choses qui est importante de comprendre dans un premier lieu, c'est qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans cette maladie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains patients qui ont peu ou pas de symptômes du tout, qui ont un prognostic excellent et qui risquent de ne pas recevoir de traitement pendant plusieurs années. Et il y a d'autres patients qui, au contraire, vont être très symptomatiques et on va avoir un prognostic qui est beaucoup moins bon. Ce qui est difficile pour les patients, c'est savoir où ils se situent dans ce spectre et de sorte que lorsqu'ils vont consulter l'Internet, ils sont soit effrayés ou soit rassurés, mais en tout cas, ils sont en général confus. Donc, je pense que c'est important pour eux de savoir où ils se situent. Je pense aussi qu'une des choses qui est très importante, évidemment, c'est de savoir quelles sont les options thérapeutiques qui leur sont offertes. Donc, il y a beaucoup d'options qui sont possibles, mais dépendamment du stade, à quel point la maladie est avancée, certaines options thérapeutiques peuvent ou ne être ou non appropriées pour eux. Donc, on parle parfois de traitements de chimiothérapie, ou des traitements de transfusion ou même de greffe à moelle osseuse. Donc, c'est important pour les patients de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour eux et d'avoir l'opportunité de poser les bonnes questions. Et afin de les aider à prendre les bonnes décisions, en plus de l'opportunité évidemment de discuter dans le cadre de la visite en clinique, c'est important pour eux d'avoir la chance de lire. Donc, je leur recommande certains sites qui sont fiables, qui sont bien structurés, tels que ceux qui sont disponibles sur le site de la Société des leucémies et lymphomes du Canada. Et finalement, la dernière chose que j'essaie de leur faire comprendre, c'est qu'il y a maintenant beaucoup plus d'espoir dans cette maladie-là. Il y a beaucoup plus de traitements qui sont disponibles et il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont maintenant disponibles. Donc, je pense que les pronostics qui sont d'actualité risquent d'être ne pas être valides dans 5 ou 10 ans, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus des options thérapeutiques qui vont être nettement améliorées.
Merci beaucoup. Vous avez parlé de différentes options de traitement, chimio, greffe. Est-ce que vous pourriez plus spécifiquement nous indiquer qu'est-ce qu'il faut prendre, comme médecin, qu'est-ce que vous prenez en compte dans le choix du traitement d'un patient versus un autre patient?
Il y a deux choses vraiment. Donc, donc je pense qu'il faut s'adapter à la maladie et au patient. Okay? Donc, les préférences des patients et puis la sévérité de la maladie. Et aussi l'habilité aux patients de tolérer des traitements. Donc, chez les patients qui n'ont aucun symptôme, il n'y a vraiment aucun traitement à offrir. Donc, c'est assez facile, mais c'est important de comprendre qu'il n'y a aucune thérapie chez les patients qui n'ont pas de symptômes qui a démontré comme ayant un potentiel d'augmenter la qualité de vie et ou la survie. Donc, chez ces gens-là, pas de traitement. Pour les gens qui ont des symptômes mineurs, par exemple des symptômes reliés à l'anémie, les traitements vont être essentiellement soit des transfusions ou des traitements à l'érythropoïétine. Okay? Ce sont des traitements qui sont en général relativement bien tolérés. Et pour ceux qui ont une myélofibrose qui est plus avancée, donc qui ont des pertes de poids, des sueurs nocturnes, une rate qui est très, très grosse, qui souffrent peut-être d'anémie ou de thrombocytopénie, chez ces gens-là, les traitements qui vont être offerts vont être axés vers l'utilisation d'un inhibiteur au JAK2. Donc, celui qui est financé au Canada, ça va être le Jakavi. Et certains patients vont se voir offrir une splénectomie, donc c'est une chirurgie où on enlève la rate, ou même la radiothérapie, même si c'est le traitement qu'on fait de moins en moins, justement à cause de l'efficacité du Jakavi. Ce sont des traitements bon, qui sont bien tolérés, puis bon, si les patients sont aptes à tolérer les effets secondaires, c'est des traitements qu'on va typiquement offrir. Les autres options thérapeutiques qu'on va offrir chez certains patients, c'est des traitements de chimiothérapie pour contrôler les comptes sanguins et parfois contrôler la taille de la rate. Et finalement, les patients qui sont le plus haut risque se verront offrir un traitement à la greffe de la moelle osseuse. Donc ça, ce sont les patients qui ont un risque de transformation en leucémie aiguë dans un laps de temps assez court. Mais c'est un traitement qui va seulement être valable, si vous voulez, chez les gens qui sont en mesure de le tolérer. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de comorbidité ou qui est très âgé, par exemple, ne se verrait pas offrir ça. Mais il y a beaucoup de patients qui sont plus jeunes, chez qui c'est un traitement qui potentiellement pourrait les guérir, pourrait augmenter leur espérance de vie, mais qui vient quand même avec un certain niveau de toxicité. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose où les patients vont devoir décider, si vous voulez, ce qu'ils souhaitent en discussion avec leur médecin, mais aussi à la lumière des lectures qu'ils vont avoir effectuées. À travers tout cela, il y a des traitements expérimentaux auxquels certains patients peuvent être éligibles. Donc, je pense que c'est important pour les patients de se renseigner ce qui est disponible non seulement dans l'institution ou avec le médecin à qui ils vont consulter, mais parfois, ça peut être dans une autre ville, dans la mesure où c'est possible, évidemment. Donc, je pense que c'est important pour les patients de voir ce qui est disponible.
Bien, merci. Oui, effectivement, s'informer, c'est toujours important. Quels sont les effets secondaires des différents traitements? Là, vous avez nommé la chimio, la greffe. Quels sont les principaux effets secondaires et comment est-ce que vous suggérez aux patients qui vous rencontrent de les gérer au quotidien?
Donc, les effets secondaires vont dépendre, bien sûr, des traitements. Donc, pour les transfusions, en général, c'est bien toléré, mais sont souvent associés à un cycle yo-yo, c'est-à-dire que les patients vont, immédiatement après la transfusion, les jours ou les semaines suivantes, vont se sentir très bien, mais les jours ou les semaines précédant la transfusion, leur énergie est au plancher, ils vont être très essoufflés, donc leur qualité de vie va être assez affectée. Donc, il s'agit de trouver en discussion avec le médecin la fréquence optimale de transfusion. Pour les traitements, l'érythropoïétine, c'est un traitement qui, en général, est vraiment très bien toléré. Chez cette population de patients-là, il n'y a vraiment pas d'effet secondaire autre que l'inconvénient vraiment de se faire injecter sur une base hebdomadaire. Donc, c'est un traitement qui est très, très bien toléré. Pour les traitements aux inhibiteurs à la JAK2, donc le Jakavi, c'est un traitement qui, chez la majorité des gens, est bien toléré. Le plus gros problème qu'on voit et puis qui affecte notre habileté à traiter certains patients, c'est que ça peut causer ou exacerber l'anémie ou la thrombocytopénie. Donc, il va s'agir vraiment, avec le médecin, là, de trouver la dose appropriée, donc la dose qui va contrôler les symptômes de splénomégalie ou de rate qui est très grosse, les symptômes constitutifs tels que perte de poids, soins nocturnes, tout en préservant les taux d'hémoglobine et de plaquettes. Donc ça va trouver, si vous voulez, le juste milieu. Et c'est important de comprendre que ça peut évoluer avec le temps. Donc, le patient peut être une dose prescrite à un certain moment, et puis 6 mois plus tard, 1 an plus tard, ou même 2 ans plus tard, la dose doit être ajustée. Donc, il faut s'attendre à ce qu'un jour, il y ait une augmentation ou une diminution de la dose, dépendamment du contexte clinique. OK? Alors, ce qui a trait à la greffe de la moelle osseuse, c'est un traitement qui est quand même beaucoup plus toxique. Donc, il y a un risque de mortalité. Mais en même temps, il y a aussi des effets secondaires, mais en même temps, c'est un traitement qui peut guérir les patients. Donc, en général, j'invite mes patients que je juge comme étant des candidats potentiels à avoir une discussion avec le groupe de greffe de la moelle osseuse afin d'avoir une discussion approfondie. Et puis, en général, ils ont vraiment beaucoup le temps de discuter donc avant de prendre des décisions. En général, les patients vont rencontrer les médecin qui est en charge de la greffe de la moelle osseuse, puis ça peut prendre des mois avant qu'il y ait la greffe. Donc, ils ont vraiment beaucoup de temps de discuter, de se renseigner, puis de s'assurer que ce soit la bonne décision pour eux.
Quand un patient reçoit un diagnostic de myélofibrose, à quoi doit-il faire attention et quand est-ce qu'il doit communiquer avec son médecin?
Mm-hmm. Donc, c'est une très bonne question. Et puis, je pense que ça fait partie du rôle du médecin, mais aussi du rôle des sociétés comme la Leucémie Lymphome d'informer les patients de quoi s'attendre, de sorte qu'ils puissent réagir de façon appropriée. Donc, tout va évidemment dépendre du stade de la maladie. Donc, les patients qui sont asymptomatiques, donc qui n'ont pas de manifestation de la maladie, il y a vraiment peu de risques à court terme. Cependant, ils doivent savoir que si jamais il y a des nouveaux symptômes, par exemple de la fatigue, ou une augmentation d'inconfort à l'abdomen ou des pertes de poids ou des signes d'anémie ou de sueur nocturne, c'est important qu'il soit réévalué par le médecin parce que peut-être c'est une manifestation de la progression de la maladie qui nécessiterait des interventions. Pour les gens qui ont la myélofibrose plus avancée et qui subissent des traitements, c'est très important qu'ils soient au fait des effets secondaires des traitements en question, de sorte qu'ils peuvent réagir et puis qu'on sache quand appeler le médecin s'ils ont des problèmes. C'est aussi important pour eux d'apprécier qu'ils sont immunosupprimés, c'est-à-dire qu'ils sont à plus haut risque d'infection. C'est quelque chose évidemment qui est très une inquiétude qui est à l'heure actuelle à cause du COVID là, qui est assez significative. Et il est aussi important évidemment pour ces gens-là d'être vigilant quant aux signes d'évolution de la maladie, un petit peu comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, là, donc progression de la fatigue ou des symptômes de la grosse rate qui peuvent signifier une progression de la maladie et consulter au besoin.
Merci beaucoup pour ces précisions. Et un peu plus tôt là, dans l'entrevue, vous avez mentionné la recherche, l'importance de la recherche. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Comment est-ce qu'elle progresse? Quelles bonnes nouvelles on peut s'attendre dans les 5 prochaines années en lien avec la myélofibrose?
Donc, moi, je suis assez optimiste. Je suis optimiste à la lumière de ce que j'étais en mesure d'observer. Lorsque j'étais en formation, ça ne fait pas si longtemps que ça, il y avait très peu de recherches sur la myélofibrose et les traitements de Jakavi, par exemple, n'étaient pas disponibles autrement que dans le cadre d'un essai clinique. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de recherches. Non seulement le Jakavi est disponible, on comprend mieux, par exemple, à qui offrir une greffe de la moelle osseuse, mais il y a beaucoup de recherches sur la myélofibrose, sur des différentes options thérapeutiques. Puis c'est en grande partie parce qu'on comprend beaucoup mieux la pathophysiologie. On comprend quels types de mutations génétiques sont présentes et en conséquence, nous sommes en mesure de développer des cibles, des médicaments qui vont cibler des mutations très spécifiques. Je pense qu'il y a des bonnes chances et je pense qu'il est très réaliste de penser qu'au cours des 5 à 10 prochaines années, on va avoir le pronostic des gens qui souffrent de la maladie de myofibrose va être amélioré de façon très substantielle.
Bien, c'est d'excellentes nouvelles. Merci beaucoup. Je pense que ça va donner beaucoup d'espoir aux gens là, qui sont touchés directement et qui écoutent ce balado. Donc, merci énormément, Dr. Villeneuve, d'avoir pris le temps aujourd'hui d'initier, de parler de la myélofibrose avec nous.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de l'opportunité.
Donc, si vous avez des questions sur la myélofibrose ou si vous avez besoin de soutien, je vous invite à communiquer avec les services à la communauté de votre région ou à visiter le www.cancerdusang.ca pour nous rejoindre. D'ici là, alors, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Merci d'avoir écouté la série de balados sur les cancers du sang de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Vous pouvez nous trouver où vous écoutez habituellement vos balados préférés. Assurez-vous de vous abonner et de nous donner votre avis. Si vous avez des idées de balados enregistrées, veuillez nous en faire part au québecinfo@commercialls.org. La Société de leucémie et lymphome du Canada se consacre au financement de recherches de pointe et au soutien des personnes touchées par les cancers du sang. Pour en savoir plus et accéder à des ressources, notamment des fiches d'information, des livrets et des webdiffusions, visitez slcanada.org.